Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes et républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Chante des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes toujours prudents. C'est pas parce qu'on déconfine et qu'il fait beau qu'il faut prendre des risques. Je vous transmets souvent des articles du monde diplomatique recalibrés au format radio. À nouveau, en ce mois de juillet 2020, l'article de Boubacar Boris Diop « Quand l'Occident n'inspire ni peur ni respect » va vous être restitué, aussi intégralement que possible. Après la pandémie, le réveil de l'Afrique. La pandémie de Covid-19, piteusement gérée par les Occidentaux, a révélé les limites de leur hégémonie. Désormais, l'Europe et les États-Unis ont perdu leur autorité morale. Mais un ordre international plus juste reste à imaginer. Pour l'Afrique, ces événements réveillent le sentiment d'un destin commun et une certaine combativité. Les obstacles restent nombreux. Au cours des trois dernières décennies, le monde a plusieurs fois redouté une pandémie. Syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS, grippe H1N1, Ebola, etc. Finalement, les inquiétudes ont toujours dépassé la menace. C'est sans doute ce qui a empêché de prendre à temps la mesure du danger que représentait le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Peut-être ne sera-t-il pas aussi meurtrier que la grippe espagnole de 1918, mais son impact économique promet d'être plus dévastateur. Curieusement, la réflexion à chaud porte davantage sur l'après-pandémie que sur la pandémie elle-même. La lutte contre le Covid-19 en cache une autre, bien plus féroce, pour le contrôle futur des ressources et des possibilités de toute la planète. L'Afrique aussi est en ordre de bataille. Et la lettre ouverte adressée aux décideurs africains par une centaine d'intellectuels allant de Wole Soyinka et Cornel West à Makili Gassama et Djibril Tamsir Nian le 1er mai 2020, cette lettre a eu un écho exceptionnel. Plutôt que lancer une pétition de plus, ses initiateurs, Abby Nyang, Lionel Zevounou, Dongo Sambasila, qui veulent transformer les mots en actes, ont élargi leur appel aux scientifiques africains. Sur un continent où presque tout est à refaire, ces militants de l'avenir ont presque accueilli la pandémie à bras ouverts, allant jusqu'à y voir une chance historique. La pandémie a rendu l'Afrique plus consciente de sa vulnérabilité et de son insignifiance aux yeux du monde. Elle a permis de constater concrètement que dans les grandes tragédies humaines, on ne peut s'en remettre à personne pour son salut. En effet, si le fléau a frappé tous les pays en même temps, ceux-ci n'ont pas fait bloc pour lui résister. Bien au contraire, les égoïsmes nationaux ont très vite pris le dessus sur le réflexe de solidarité. Comme on a vu à propos des éventuels vaccins futurs. Le continent africain, dépendant des autres pour presque tout, a rapidement compris qu'avec le temps, les conditions de sa propre destruction se sont accumulées. C'est tout simple. Si le virus qui a mis à genoux les riches pays occidentaux avait été aussi violent en Afrique, l'hécatombe annoncée y aurait certainement eu lieu. Cependant, même si elle leur a asséné un coup violent, les Africains n'ont pas attendu cette pandémie pour rêver, selon l'injonction d'Aimé Césaire, de recommencer la fin du monde. Le moment semble d'autant plus propice que l'on a rarement vu les puissances occidentales en si piteuse posture. Le contexte historique rappelle, toute proportion gardée, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Sur ces lieux de pure vérité humaine que sont les champs de bataille, les soldats africains ont vu s'effondrer le mythe de la toute-puissance du colonisateur. Ils y ont également découvert les luttes des autres peuples et mieux compris les mécanismes de leur propre oppression. Libérateurs de l'Europe, débarrassés du complexe de l'homme blanc, et devenus des acteurs politiques de premier plan. Ils ont été au cœur de toutes les batailles pour l'indépendance. Quelque chose du même ordre pourrait bien être en cours depuis la chute du mur de Berlin. Voilà en effet une vingtaine d'années que l'Occident n'inspire presque plus ni peur ni respect à tant de nations pourtant encore sous son joug. Les guerres d'Irak et de Libye sont passées par là, qui lui ont fait perdre le peu d'autorité morale qui lui restait. Si la pandémie ne lui a pas donné le coup de grâce, elle est en train d'en faire un grand blessé. Ce sentiment est si répandu que depuis l'Allemagne, où la crise sanitaire semble pourtant le mieux maîtrisée, une correspondante amie a commenté au téléphone. L'Occident est en train de s'effondrer. Je suis surprise d'être témoin de cet événement, car je ne pensais pas que cela arriverait de mon vivant. Réflexion accompagnée d'un bref éclat de rire où on sentait un mélange de dégoût et de gaieté. Toutefois, si le fléau ne va pas entraîner du jour au lendemain un nouvel ordre mondial, plus juste et plus équilibré, il a pourtant révélé les limites d'une hégémonie occidentale qu'on croyait sans partage. Tout d'abord, lorsque la pandémie éclate, un certain Donald Trump est depuis 3 ans président des États-Unis d'Amérique, pays leader du bloc occidental. Les hommes ne font certes pas l'histoire, mais il se pourrait que le président Trump soit pour l'Occident moins un accident qu'un symptôme, celui de son lent déclin. Ce n'est pas non plus un hasard si l'autocrate Viktor Orban, partisan de la théorie du grand remplacement, est aux commandes en Hongrie. De crispation identitaire en ressentiment. Son exemple pourrait faire tache d'huile en Europe. Faut-il, dans le même ordre d'idées, évoquer le Brexit? Tout sauf anodin coup de canif contre le projet européen. On comprend mieux pourquoi tant de dirigeants du Sud osent aujourd'hui s'en prendre ouvertement au Nord. En visite au Ghana en décembre 2017, le président Emmanuel Macron s'entend dire par son hôte de dures vérités sur l'aide au développement. Au Zimbabwe, l'ambassadeur américain vient d'être sommé de s'expliquer sur l'affaire George Floyd. Et l'Union africaine a fustigé en termes très durs les brutalités policières contre les Noirs aux États-Unis. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa n'a pas hésité à déclarer que l'assassinat de Floyd ravive les plaies des Noirs sud-africains. Mais pour significatif qu'il soit, ces mouvements d'humeur n'ont jamais paru mettre en cause le rapport de force entre l'Afrique et des pays occidentaux qui aiment se présenter comme ses bienfaiteurs. On aura d'ailleurs remarqué que de tels sursauts sont surtout le fait des anciennes colonies britanniques ou portugaises qui, elles au moins, peuvent se targuer d'un minimum de souveraineté. Ce n'est pas le cas des pays africains francophones, où depuis 60 ans, l'ancienne puissance coloniale impose son autorité de manière quasi directe. On dit souvent que pendant la guerre froide, la CIA siégeait au Conseil des ministres de certains régimes fantoches d'Amérique latine. Ce modèle survit sous une forme atténuée en Afrique francophone, dernier endroit du globe où une puissance étrangère est au cœur des processus de décision en matière monétaire, par exemple. Cette Afrique-là reste, pour la France, un gigantesque réservoir de matières premières. Paris n'y tolère aucune force politique pouvant menacer les intérêts de Total, d'Areva ou d'Eiffage. Le continent offre le terrain de jeu favori de l'armée de l'Hexagone, qui y est intervenue des dizaines de fois depuis 1964, année de la première intervention militaire française en Afrique subsaharienne, au Gabon précisément, après les indépendances de 1960. Le contraste est frappant avec Londres, qui n'a jamais déployé de troupes dans ses ex-colonies africaines. Voilà pourquoi on a eu l'impression d'un basculement le jour où le président Macron s'est publiquement emporté contre ce qu'il a appelé des sentiments anti-français en Afrique. C'est qu'il a eu le temps de se rendre compte qu'une nouvelle génération d'Africains est résolue à en finir avec cet anachronisme. Qu'est la France-Afrique ?
Les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés, leurs trois syndicats bafoués. Les étudiants sont fâchés, ils veulent plus de liberté. Papier Longuet, les Mourouti, parce qu'ils ont été cognés. Les médecins sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés parce qu'ils ont été compressés. Le gouvernement est fâché, les caisses de l'État vidées, vidées. Baribana, 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 bébé bécan. Baribana, 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 bébé bécan. Abana, where ya bebe kan? Waribana, waribana, where ya bebe kan?
Le fait qu'on retrouve en première ligne de ce mouvement de révolte des stars planétaires comme Salif Keïta ou Alpha Blondie, Tikenja Fakoli ou le cinéaste tchèque Omar Sissoko en dit la profondeur. Le grand Richard Bonnat avait annulé, en février 2019, un concert à Abidjan pour protester contre le franc CFA, se promettant d'ailleurs de ne plus se produire dans un pays où cette monnaie aurait cours. Il faut aussi prendre en compte de nouvelles formes de radicalisation politique, symbolisées par les mouvements Urgence panafricaniste de Kémy Séba et France dégage, dont Guy Marius Sagna est une figure de proue. C'est donc dans un contexte où les esprits étaient déjà surchauffés qu'est intervenue la pandémie. Chacun a pu constater avec stupéfaction l'incapacité de l'Europe et des États-Unis, si prompts à prétendre se porter au secours des autres, l'incapacité à secourir leurs propres citoyens. Quelle ne fut pas la surprise de beaucoup à les entendre se plaindre, toute honte bue, de leur dépendance envers Pékin. Et ce que le Canard enchaîné a appelé la guerre des masques laissera sûrement des traces dans les mémoires. si c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. La pandémie a mis à nu un colossal fiasco. Ça a réveillé chez les Africains un sentiment d'appartenance qui, au fond, ne les a jamais quittés. C'est très visible depuis quelques semaines. On dessine à qui mieux les contours de l'Afrique d'après. J'entends encore, et c'est l'auteur Boris Diop qui parle, j'entends encore l'historienne Pendambo me recommander un texte d'Amadou Ntouré, avant d'ajouter « Tu verras, nous disons tous la même chose en ce moment. » Ce « nous » chargé d'une discrète émotion me frappe tout particulièrement. Et ce qui se dit et se répète, c'est que pour l'Afrique, l'heure de toutes les souverainetés a sonné. C'est pour en finir avec une certaine servilité que plusieurs États, Burundi, Maroc, Guinée équatoriale, ont bravé des interdits de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, concernant la prescription d'hydroxychloroquine, par exemple. Madagascar, elle, est allée jusqu'à fabriquer son propre remède, le COVID Organics, à base d'artémisia. C'est aussi la première fois que les mauvais traitements infligés en Chine aux négro-africains ont suscité des protestations officielles aussi vives. L'ambassadeur de Chine à Abuja, au Nigeria, a été sommé de s'en expliquer dans des conditions humiliantes. L'instinct de survie est pour beaucoup dans ce regain de combativité. Compter sur les autres pour se nourrir ou se soigner, c'est s'exposer au risque de mourir de faim ou de maladie. Voilà pourquoi l'autosuffisance alimentaire et la rationalisation de la pharmacopée africaine sont au centre de tous les débats. Mais c'est dans la presse en ligne et sur les réseaux sociaux que l'on sent, pour reprendre le mot du journaliste et consultant René Lac, que le couvercle a sauté.
Manjuwa kanakasi, minata chini fa kanakasi, dunya dani.
cette prise de parole à la fois sauvage et massive concerne surtout la jeunesse. Sur plus d'un milliard d'Africains subsahariens, 70% ont moins de 30 ans. Il s'agit donc là d'une formidable secousse politique. Est-ce à dire que les lendemains sont déjà en train de chanter? Certainement pas. Il faudrait pour cela que le fameux monde d'après, les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal, se mettent, comme pris d'une belle folie, à penser et à agir, comme Thomas Sankara. Mais la France-Afrique ne doit pas sa longévité au seul contrôle du personnel politique. Elle est aussi d'une redoutable efficacité dans la gestion de proximité, quasi nominative, d'intellectuels et d'hommes de culture, transformés en zombies. Nombre de ceux qui disent en ce moment, piaffés d'impatience aux portes du monde nouveau, sont en fait de farouches partisans du statu quo. C'est du reste pour laisser passer l'orage que les présidents Sall et Macron ont lancé le débat sur la dette. Le premier a accepté le mauvais rôle, mendié les faveurs financières des dirigeants occidentaux au moment même où ceux-ci étaient si occupés à compter leur mort. En agissant ainsi, il s'est exposé et a exposé l'Afrique au mépris des chefs d'État du Nord. Ce type de débat avait en outre pour le président Macron l'avantage d'enferrer tout un continent dans les schémas du monde d'avant, un monde où l'aide à l'Afrique est l'un des plus sûrs attributs de la puissance, fantasmée ou réelle, de l'Europe. Inutile de dire que ce sentiment est encore plus enivrant lorsqu'on est en plein désarroi.
Sur le trottoir d'en face, une fille riait et ses dents blanches me creusèrent la faim. Je courus au boulanger m'acheter un petit pain et tout en le beurrant, je pense aux paysans. Paysans, dès lors, décision est prise. Oui, j'irai à travers la campagne offrir aux paysans 10 ans de ma jeunesse, connaître leur sort, leurs durs travaux des champs. Oui, nos champs n'ont rien de commun avec leur ranch ici. Pas de charrue ni de tracteur, zélée la hache dès le point du jour. En avance, puis on brûle, c'est pas pour plaire aux yeux, mais pour mieux faire pousser le café. Du café, oui, du café, ne vous en étonnez pas. Les amis nous ont dit qu'il n'est pas compétitif, néanmoins le soir venu, faut chasser grosses bêtes, on allume des grands feux, on tape dans des tonneaux vieux vides de mauvais vin, qu'on nous avait filé les dernières élections. Croyez-moi, la nuit venue, on oublie bien vite ce vin, quand sur son tam-tam, au goula nous fait danser. Arrêtez de danser, sale nègre, arrêtez. C'est un prospecteur embouché, recyclé, c'est sur un gisement d'or, nous explique le salaud, que nous dansions depuis des générations. Go home, sale colon, fige. Coup sur coup, il comprit alors que je suis un intellectuel. Chut, me fit le con, je suis de la croix noire pour l'intérêt des noirs. D'ailleurs, je t'écrirai m'écrire, il tint promesse, il le fit bientôt. J'ai l'honneur, le plaisir, vous êtes conseillé. Adieu, cochons et vaches, je m'en retourne là-bas, dans ces coins publics où pèsent les grands messieurs. Conseillé, je fus un peu étonné, mais enfin on s'adapte. Il faut dire que je signe fort bien, mais s'épuisent les gisements d'or, tarissent les amitiés. Mon mandat fut très court, mesure d'austérité. Sur le trottoir d'en face, une fille riait, et ses dents blanches me prédisent la fin. Je cours au boulanger, comme tout bon patriote, mais plus de boulanger, il est presque député. La 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 la.
L'Afrique d'aujourd'hui n'a presque plus rien à voir avec celle des indépendances. C'est pourquoi l'idée qu'elle essaie dès à présent de résoudre ses problèmes dans un élan commun est de moins en moins réaliste. Le scénario le plus plausible est celui de réussite isolée, sur le modèle du Rwanda, du Ghana ou de l'Éthiopie. Habituée à se penser comme un tout, l'Afrique reste pourtant le continent des lieux lointains. Du fait de la quasi-inexistence de moyens de transport continentaux dignes de ce nom, on y voyage le plus souvent de Lagos à Londres ou New York, plus que de Lomé à Maputo. Le cloisonnement qui en résulte rend presque impossible à l'heure actuelle toute action commune. Il pourrait même expliquer une torpeur parfois très embarrassante. C'est le cas en ce moment où de Tokyo à Bruxelles et de Sydney à Séoul, le monde entier manifeste sa solidarité aux Afro-Américains. L'Afrique est restée totalement à l'écart de ce mouvement antiraciste planétaire. Le premier ministre canadien s'est agenouillé pendant plus de 8 minutes en hommage à George Floyd. Mais aucun président africain n'a cru devoir en faire autant. Cette absence au monde, en une occasion où on devrait être au centre de toutes les initiatives, est un signe qui ne trompe pas. Mais s'il est entendu qu'un virus ne saurait à lui seul faire le printemps africain, l'effervescence actuelle ne doit pas non plus être sous-estimée. Elle pourrait, à terme, aider l'Afrique à basculer définitivement sur la pente de son destin fédéral, comme l'y invitait Cheikh Anta Diop, en ajoutant avec une lucidité quelque peu désespérée, ne serait-ce que par égoïsme lucide. Ça prendra quand même un peu de temps. Ce sera à faire autant de passion que de patience.
Nuit noire au début de l'histoire. Pluie froide et fouet au premier soir. Cher vendu, produit et bénéfice cru. Bienvenue sur mon sang répandu. Fleur de lys, préface civilisatrice. Fond de cale, Europe et crocs de métal. Vieille Europe, du gibier pour tes vestales. Vieille Europe, la terre dans tes poches vénales. Siècle fermé sur des escales forgées. Siècle pillé pour des entrailles friées. Siècle volé, nos visages effacés. Ces siècles à réécrire, bien avant d'en guérir. L'ombre est haute, les palabres mortes. La puanteur trop forte, le monde libre à sa porte. Elle ne passera pas inaperçue. En Afrique, vous l'aurez vu, la victoire des vaincus. Tout paraît perdu d'avance. Que la vie n'a plus de sens. Que la foi est mise à l'épreuve. Trop de souffrance. Pas l'arrogance des ennemis de l'espoir.
La résistance a un parfum de victoire. Tout paraît perdu d'avance. La vie n'a plus de sens. La foi est mise à rude épreuve. Trop de souffrance. Par l'arrogance des ennemis de l'espoir. La résistance a un parfum de victoire. Mon grand-père a fait un rêve qui est aussi le mien. Rêve d'un état libre et souverain. Rêve d'un être né sur un sol qui n'est plus le sien, Kinshasa. Ville de mes rêves, la nuit je pense à toi. Mon cœur s'affole quand je vois ce qu'ils ont fait de toi. Kim la belle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un spectacle de misère avec la guerre pour toile de fond. Ton pillage offrant n'est qu'une suite logique. Un sol trop riche en Afrique et tout sauf gage de paix. Je le sais mais je m'accroche à mon rêve comme à une bouée. Un micro dans la main et un poème dans la poche. J'avance comme Dongala, mes illusions en guise de torse de là. Le nombre d'une Afrique, le nombre d'une. J'en prends toche, je rêve, mes proches me disent Abkhaz, réveille-toi, ton Afrique ancestrale n'est qu'un mythe. Elle tombe en ruine, comme l'ensemble des temples de Kémit. La négritude n'est plus, France va non plus. Je leur réponds que les écrits restent, traversent le temps. Sèment des graines dans les consciences des générations futures. Pour que le soleil des indépendances ne soit plus masqué par cette éclipse néocolonisatrice. Perdu d'avance, que la vie n'a plus de sens, que la foi est mise à rude épreuve, trop de souffrance. Par l'arrogance des ennemis de l'espoir, la résistance a un parfum de victoire. Tout paraît perdu d'avance, que la vie n'a plus de sens, que la foi est mise à rude épreuve, trop de souffrance. Par l'arrogance des ennemis de l'espoir, la résistance a un parfum de victoire. C'est la victoire des vaincus.
1. Amir Abkhaz. La rumeur. Test press.
Une rumeur provient du bas et lui donne des raisons d'espérer. Casse fils de nain.
J'espère énormément que cet article de Boubacar Boris Diop du Monde Diplomatique, article qui a tout de même quelques jours, j'espère qu'il est toujours d'actualité, surtout dans cet aspect page tournée du coronavirus. Je l'espère beaucoup pour l'Afrique. Et en complément de cet article, un autre qui nous vient de l'agence France Presse en particulier, ce que l'Europe entend par assistance alimentaire à l'Afrique. Covid-19, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel tentent d'éviter une crise laitière venue d'Europe. C'est daté du 30 juin 2020. L'Afrique de l'Ouest craint une grave crise si les industriels laitiers européens déversent en Afrique leurs excédents de poudre de lait stockés pendant la crise sanitaire, ce qui fragiliserait les éleveurs locaux. Comme toutes les ONG qui défendent les éleveurs sahéliens, l'organisation paysanne ouest-africaine APES se déclare inquiète des décisions de Bruxelles de subventionner le stockage de poudre de lait des industriels laitiers européens. Cette décision est destinée à soulager les éleveurs du vieux continent après la chute des cours du lait provoquée par la fermeture des lieux de consommation comme restaurants et cantines en raison de la pandémie, au moment précis où explosait la surproduction printanière de lait. Nous craignons que ce lait soit déstocké pour expédition en Afrique de l'Ouest, à des prix de dumping sous forme de poudre de lait écrémé réengraissée, a indiqué Indato Amadou, porte-parole de l'APES et coordinatrice de la campagne ouest-africaine « Mon lait est local » pendant une récente table ronde sur le sujet. Est-ce que vraiment les industriels laitiers européens déstabilisent les éleveurs locaux? Au début de mai 2020, une douzaine d'associations paysannes et d'ONG, dont Oxfam et CCFD Terres Solidaires, avaient déjà alerté sur un risque de crise grave, alors que l'Afrique de l'Ouest voulait miser notamment sur le secteur de l'élevage pour soutenir l'emploi, pour lutter contre la sous-alimentation, pour contenir les migrations et, in fine, lutter contre les violences. En 2015, les poudres de lait écrémées européennes, réengraissées avec des matières grasses végétales, étaient diffusées à 54% en Afrique subsaharienne, selon une publication de la Commission européenne. La pratique s'est développée en 2017 et en 2018, à la faveur de l'envolée des cours du beurre sur les marchés mondiaux. Avec les matières grasses du lait, un certain nombre d'industriels produisaient du beurre qu'ils vendaient à de très bons prix. Et le lait écrémé en poudre qui restait était ensuite réengraissé avec de l'huile de palme et vendu dans des pays émergents à des prix plus faibles que leur lait local, explique à l'agence France Presse une source industrielle française qui requiert l'anonymat. Laquelle source confirme que sous couvert d'aider des pays en développement à nourrir leur population à des prix accessibles, les industriels laitiers européens participent donc à ce vaste commerce qui déstabilise fortement les éleveurs locaux. Au premier rang de ces prédateurs figurent des groupes irlandais qui font 22% des ventes de poudre de lait réengraissée réalisées en Afrique en 2015, selon le rapport européen JIRA de 2017. Ensuite viennent les Néerlandais, qui font 15% des ventes, les Belges 10%, les Polonais 5%, et les Allemands et les Français chacun 4%. Les volumes concernés sont difficiles à quantifier précisément, car ces produits ne sont pas identifiés par les douanes. Sous l'influence d'ONG, un code douanier permettant de les tracer a vu le jour au 1er janvier. Mais globalement, ces importations ont encore une influence énorme, relève Gilles Vias de l'ONG Vétérinaire Sans Frontières. Dans les unités de transformation industrielle du lait en Afrique de l'Ouest, on est à 5% de lait local et à 95% de lait importé en poudre et transformé en produits laitiers, selon lui. Il demande soit un relèvement des droits de douane, actuellement à 5%, soit une politique de robinet qui permettrait d'arrêter les importations au moment où le lait local est disponible, notamment dans les micro-laiteries du Sahel qui dépendent de troupeaux non sédentaires, très fragiles. Le sujet est d'autant plus important que les pays du Sahel sont de très grands consommateurs de lait, mais aussi producteurs grâce à leurs troupeaux extensifs et transhumants. Le Mali, le Niger, la Mauritanie produisent ainsi 76% du lait local d'Afrique de l'Ouest, selon Gilles Vias. Interpellés à ce sujet, certains industriels européens commence tout juste à réagir en accompagnant la production locale. Arla Foods du Danemark a engagé un partenariat avec le ministère de l'Agriculture du Nigeria. La coopérative néerlandaise Friesland Campina y a aussi investi dans le développement de boissons lactées à partir de lait local. Amundi fonds d'investissement du français Danone, a augmenté en mai ses investissements dans la laiterie du Berger, qui collecte le lait des éleveurs Peuls au nord du Sénégal, pour renforcer la collecte de lait et la distribution et la vente au Sénégal.
Amnésie lâche collective, presque addictive. On lâche la barre, on part à la dérive. Nos cerveaux que des menteurs lessivent. On mal à l'honneur quand le souvenir arrive. Il faut bien vivre, mais l'autre rive crève. Au lieu d'ouvrir le dossier, on nous sert des brèves. La vie de tête à claque gavée par les grèves. De l'info pour faire diversion sans trêve. Mais le navire a des trous dans la cale. Des brèches sévères où le colon empale. Sur ses crimes, on déploie des rideaux. Mais gare, car le bateau se remplit d'eau. D'une tactique à l'autre, le mental dénie cette immonde trace des textes. Mais tout ça s'éclaircit toujours quand l'âme lâche ce qui la brûle. Mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Puis ton scandale avoue tes méfaits. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dis tes méfaits ou mets ton dernier coup de fouet.
Alors je ne résiste pas à vous transmettre quelques commentaires de lecteurs. C'est pas la première fois, pareil pour le poulet vendu à perte qui a tué les paysans locaux. Et un autre. La solution, c'est que les pays d'Afrique interdisent cette grosse daube de poudre de lait reconstituée sur leur territoire. Elle n'a aucun intérêt nutritif, juste un intérêt calorique, avec de très mauvaises graisses. Il y a le risque que les familles en difficulté alimentaire l'utilisent pour alimenter les enfants, avec en plus une eau impropre à la consommation. Elle est terriblement dévastatrice en termes d'environnement, que ce soit dans les élevages européens ou dans les exploitations agricoles asiatiques, et notamment en Indonésie. Sans compter les allers-retours des matières premières et des emballages. Et quelqu'un d'autre s'insurge. Poudre de lait écrémé, réengraissé, c'est plus du lait, quoi. Et un autre commentateur reprend la parole. Les peuples d'Afrique sont entièrement d'accord. Qu'on les laisse se prendre en main et surtout qu'on leur foute la paix. Que les Occidentaux ne viennent plus du tout interférer dans leurs affaires.
C'est les premiers pas en terres indigènes. Des catholiques et des protestants viennent. Pavés des bonnes intentions du début, ils disaient apporter la parole de Jésus. Jusqu'à l'heure de l'ère industrielle, des besoins illimités de la métropole. Plus question de convertir les âmes, on se mit à dire qu'ils n'étaient pas des hommes. Et ce fut chaîne et coups de fouet, travaux forcés, la mise à mort menaçant l'ouvrier. Commerce d'esclaves et caution morale, on admit l'horreur comme tout à fait normal. Darwin Gobineau mettant la science à leur sauce, le racisme était une théorie en place. La bourgeoisie d'Europe allait prospérer, c'est loin d'être fini, que faut-il espérer? Mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Puis ton scandale avoue tes méfaits. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dis tes méfaits ou mets ton dernier coup de fouet.
Et un autre participant. Le dumping. Vendre à perte pour couler le concurrent moins puissant. Ça vous parle? Eh oui, l'aide à l'Afrique, c'est très, très souvent du dumping. On se vante d'apporter la santé et l'abondance, et on étouffe les petits producteurs qui ne demandent rien chez eux, où on n'a rien à faire. On augmente donc le chômage, le gaspillage des ressources, ici le lait local, et les victimes de ce tour de force économique n'auront plus qu'à se jeter à l'eau de la Méditerranée. Merci de votre écoute et à bientôt en podcast et le deuxième mercredi du mois d'août.
7 ans qu'on a saigné les colonisés. Au nom de l'évangile on a mutilé. 7 ans vraiment ce qui a pu se passer. Le pourquoi du comment des atrocités. Peut-on vivre longtemps dans la négation? Pourquoi parler de civilisation? Expliquer ce qu'étaient les travaux forcés. Tous les membres coupés, les filles violées. La chicotée, les camps de concentration. Les vols et les plans d'extermination. Pourquoi vouloir ainsi tenter d'oublier les récits de traite en bâton négrier? On nous dit que ces crimes sont révolus. Pourtant l'exploitation ne s'arrête plus. Les grandes firmes pour produire en secret se servent de la misère qu'elles-mêmes créent. Jamais nous ne pourrons le réaliser, ni même envisager de cicatriser. Tant que les mensonges du présent seront irrémédiablement enfouis dans notre
mémoire mauvaise, le temps passe. Mémoire mauvaise, signe ton score. Choisis plus les chapitres et donne ce que tu gardes secret. Pète ton scandale à bout de méfaits. Le bateau coule, il a la coque fendue. Le bateau coule, il est perdu. Mémoire mauvaise, dis tes méfaits ou mes